Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors, on va parler de des recherches scientifiques et des conflits d'intérêts. On va parler du régime végétalien contre la diète méditerranéenne, laquelle diète est la plus efficace pour perdre du poids, du gras. On va parler également de la question d'un auditeur, donc j'y répondrai à la fin de l'épisode. Et donc, bon, j'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin avant-hier, parce que si vous écoutez le podcast à la sortie, c'était avant-hier. Donc, alors apparemment, la Saint-Valentin est une période où il y a le plus de mets sucrés. Donc voilà, je sais pas si c'est vrai pour vous, mais en tout cas, c'est une période où, enfin, c'est une journée où on mange beaucoup de sucre. Alors, est-ce que le sucre est lié à l'amour, à la vie de couple et tout ça, j'en sais rien, mais en tout cas c'est ce que j'ai lu ça en préparant le podcast, là je lisais ça. Donc voilà, petite info, est-ce que vous êtes gavé de sucre, oui ou non? Ben, vous avez qu'à me mettre la réponse dans les commentaires si vous m'écoutez avec une plateforme qui propose les commentaires. Bon, qu'est-ce que j'ai sorti ce week-end? J'ai sorti une vidéo qui s'appelle « Comment relancer son métabolisme » qui parle de la leptine. Donc la leptine, on en parle déjà sur pas mal de plateformes, que ça soit YouTube, en podcast, sur plein de supports, vidéo, formation et tout ça. J'avais envie d'apporter un petit peu de nouveauté là-dessus. Alors bon, je vais pas vous faire direct, enfin si, je vais vous dire le plan de ce qui attend les personnes qui vont vouloir l'écouter. Donc la première chose que j'avais notée, alors j'ouvre le petit plan. Comme ça, au moins, si vous êtes intéressé. Donc, qu'est-ce que la leptine et pourquoi beaucoup, entre guillemets, beaucoup de personnes, surtout les pratiquants de musculation, ils n'ont pas la bonne notion par rapport à ça. Quel est le taux de graisse minimum pour relancer la production de leptine? Comment booster son taux de testo pour retrouver un équilibre normal grâce à la leptine? Mettre en place un vrai rebond lors d'un régime, les étapes pas à pas? Limiter la faim et augmenter la perte de graisse durant un régime? Et en bonus, le plan complet à suivre pour recharger et relancer son métabolisme. Vous avez la vidéo, le lien comme d'habitude qui est dans les notes de l'émission. Et on démarre l'épisode tout de suite. Donc, la première actu, c'était pour parler la recherche et les conflits. Ah oui, en parlant de conflits, juste une petite chose. Sur le site, quand vous avez envie de critiquer une personne ou autre, ne me donnez pas des commentaires, ne me parlez pas de la personne dans les commentaires ou quoi, parce que je ne les publie pas, en fait, ces commentaires, quand vous voulez critiquer une personne. Je ne trouve pas ça très... Enfin bon, voilà, moi, mon site, je ne suis pas là pour créer de l'information buzz et tout ça, parce que des fois, ça arrive hein, que des personnes... ils donnent leur avis sur une personne, sur un individu qui pourrait ou le dénigrer ou la dénigrer ou autre. Et déjà, moi, je ne suis pas leur avocat, ces gens-là, ces personnes qu'ils incriminent. Et deux, en fait, ce n'est pas le but. Donc, j'ai vu que ça... Alors, ce n'est pas que chez moi que ça arrive, ça arrive. Moi, c'est très rare que ça arrive, mais ça arrive de temps en temps. Et préférez aller voir les intéressés plutôt que moi, parce que je sais que les personnes attendraient de moi un point de vue là-dessus, mais j'en ai pas, en fait. Je suis comme vous, les autres je les connais pas hein. Je connais des autres que ce que je vois sur internet, donc c'était juste un petit message. Je veux pas rentrer là-dedans parce que ça m'intéresse pas, et en plus c'est hyper énergivore, c'est-à-dire qu'on perd beaucoup de temps à essayer de trouver des informations quand on cherche à dénigrer une personne. Et enfin, moi j'ai pas le temps, honnêtement. Je prépare les podcasts, je fais mes formations, je suis dans mon coin, donc j'ai, comme dirait Roger Moore dans un de ses bouquins, je crois qu'il disait quand on a aucune bonne chose à dire sur quelqu'un, on préfère se taire. Donc quand vous voyez que je me tais sur des individus, c'est que j'ai rien de bien à dire dessus, tout simplement. Bon, la recherche et les conflits d'intérêts. Donc j'ai récolté ça, c'est pareil dans les notes de l'émission, vous avez la source si vous voulez aller lire. Donc les auteurs ont recensé près de 1500 études publiées en 2018 dans les 10 principales revues scientifiques de nutrition actuelles qui ont révélé les affiliations de leurs auteurs, leurs déclarations d'intérêt, leurs sources de financement. Résultat, plus d'une publication sur 8 présentait des liens d'intérêt avec l'industrie agroalimentaire. Les auteurs ont recensé près de 1500 études et donc ce qu'ils disaient, c'était que une publication sur 8 présentait, comme je viens de dire, un conflit d'intérêt. Donc, par rapport à ce qu'on entend un peu partout, je trouve personnellement que le chiffre est plutôt minime. Une publication sur 8, ça fait pas énorme. Alors, il y en a qui vont dire que même ces chiffres que je viens de donner sont tronqués. Moi qui regarde pas mal d'études, ce chiffre d'une sur 8, il est vrai que de plus en plus souvent... Alors, est-ce que le système pour la déclaration de conflit d'intérêts est de plus en plus pointu ? J'en sais rien. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que ça soit... faudrait pas que ça soit de la bonne foi de ceux qui rédigent les études. Faudrait que ce soit un petit peu comme du Wikipédia, admettons, parce que entre chercheurs, les gens se lisent. Donc, je pense que c'est déjà peut-être un peu comme ça, mais il faudrait que la déclaration de conflit d'intérêts se fasse par les pairs, en fait, par d'autres personnes. Admettons, moi, si j'étais chercheur, et chercheur qui travaillerait pour, je sais pas, moi, une marque X ou Y, et que je publie une étude et que je mets pas que je travaille pour ces personnes-là, et ben en fait mes collègues eux pourraient le dire. Et donc du coup ça serait inscrit. Donc ça serait au moins une façon un petit peu plus légitime en tout cas de voir, parce que si c'est qu'au bon vouloir des auteurs de mettre s'ils ont des conflits ou pas, enfin faut pas s'attendre à des miracles, hein. Donc c'est pour ça ce chiffre 1 sur 8. Si c'est la réalité, je trouve ça encourageant parce que une étude sur 8 c'est pas énorme. Et pour avoir regardé pas mal d'études chaque semaine, même je continue à le faire, hein, c'est pas que au passé, les dernières que j'ai lues c'était ce matin, donc je continue. Il me semble, en tout cas moi dans la recherche que je fais, donc le sommeil, je vais pas dire le style de vie global fitness, mais c'est plus ou moins ça en fait, hein, tout ce qui peut s'articuler autour de notre style de vie. Il me semble que j'en vois un petit peu plus régulièrement que une sur huit. Donc, en termes d'études où je clique, c'est très régulier. Alors, et en plus de ça, des fois, on ne les voit pas quand on lit juste l'abstrait, les résumés d'études, ce n'est pas noté. Et quand, en fait, on creuse, on va sur l'étude en elle-même, on voit à la fin qu'il y a certains petits conflits. Alors, et c'est pareil, encore une fois, ces conflits, donc ces intérêts, il faut bien lire parce que, comme je disais dans un autre podcast, parfois... Il y a même des marques de compléments alimentaires qui ont financé l'étude, mais ils précisent bien qu'ils n'ont pas du tout forcé à la publication. Et même quand on lit l'étude, on se dit mais comment ça peut comment ça peut leur profiter en fait, parce que souvent ce sont des résultats. C'est pas forcément des résultats qui vont dire la protéine c'est génial, la créatine c'est miraculeux. Ça peut être tout autre genre d'étude qui n'engage même pas les compléments alimentaires, c'est-à-dire par exemple au niveau de la nutrition tout simplement. Alors évidemment, je sais qu'il y en a qui vont se dire « Oui, mais si, par exemple, dans la nutrition, ils mettent en avant qu'un régime protéiné est bien, bah, c'est facile de s'en servir pour proposer leur protéine en poudre. » Oui, probablement, mais parfois, il y a des études qui n'ont vraiment rien à voir avec les compléments alimentaires, enfin, ceux proposés en tout cas par la marque. Donc c'est pour ça, moi, je ne serais pas binaire dans le côté « il y a conflit d'intérêts ». Donc, c'est l'étude, on l'oublie. En fait, il faut la lire, il faut essayer de la comprendre. Après, c'est de l'interprétation personnelle, je pense. Mais bon, de toute façon, chacun fait ce qu'il veut quand il lit ses études. Donc, voilà. Moi, en tout cas, si ce chiffre est réel, je trouve que c'est plutôt encourageant. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y en a quelques-unes qui passent sous le manteau. Voilà. Ça, c'est mon point de vue personnel. En fait, il faudrait connaître, comme je disais tout à l'heure, il faudrait vraiment connaître la façon dont sont faits les signalements. Donc, est-ce que déjà ce sont des signalements de conflit d'intérêts ou est-ce que ce sont des déclarations sur l'honneur, en gros, quoi. Et ça, je trouve que il faudrait savoir parce que, vous savez, c'est toujours quand on... Enfin bon, je ne vais pas refaire ce que je viens de dire, mais moi, je serais plus pour un mode un petit peu... Alors, c'est pas ils vont dire c'est de la balance. Non, c'est pas de la balance. C'est juste, si la personne a des conflits d'intérêts. Enfin, déjà, le mot conflit d'intérêts, il est péjoratif. Si la personne travaille pour une société, ou pour même un magazine de santé ou autre, juste le préciser, quoi. Dire, telle personne travaille là-bas, c'est à rien de dénigrer son travail. C'est juste dire, elle travaille là-bas. Donc, ça peut même amener certaines personnes, des fois, à contacter la personne plus facilement, le chercheur, et lui dire, bon, ben voilà, vos résultats, vous en êtes arrivés là, est-ce que vous avez fait d'autres études par rapport à ça, est-ce que c'est la seule qui existe par rapport à ça, demander les protocoles un petit peu plus pointus et tout ça. Bon, personne ne va le faire. Mais moi, je suis pour la transparence, mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on veut vraiment, vraiment, vraiment tirer au fusil sur l'industrie des compléments alimentaires, agroalimentaires, tout ça. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a une industrie qui a quand même sauvé la famine et que d'un autre côté, aujourd'hui, évidemment, qu'elle crée aussi de la malbouffe. Hein, enfin, tous les reportages que je vous partage dans mes newsletters VIP et tout, bon, vous avez, enfin, on a envie des fois d'aller les voir, de leur dire les gars, on s'en fout, nous, que ça soit meilleur au goût et que ça se conserve 3 jours de plus, mais ne nous mettez pas ces saloperies dedans, s'il vous plaît, quoi. Mettez-nous des trucs. Enfin bon, aujourd'hui, on est obligé de ne pas les manger. Enfin, obligé, non, on n'est pas obligé de ne pas les manger, mais on ne les mange pas parce que si on les mange, c'est. Ces aliments-là, les trucs de hyper transformés, c'est n'importe quoi. C'est même plus de la bouffe, en fait. C'est pour ça, quand on dit manger équilibré, manger tout, ce tout, je le mets même pas dedans, quoi. Ce genre d'aliments, pour moi, ce ne sont pas des aliments. Ce sont des. Quand je vois des plats préparés, pour moi, c'est comme un Kinder. Voilà. Si vous voulez une image, pour moi, c'est comme un Kinder. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est pareil. C'est un embriquement d'ingrédients pour que ça soit beau, bon, que ça dure longtemps, que ça périme pas, que ça garde son allure très longtemps, etc., etc. Donc bon, voilà, l'industrie agroalimentaire, elle a certainement des gros défauts, mais je pense qu'elle a aussi des qualités qu'on a tendance à oublier, parce que nous, ça ne nous concerne plus aujourd'hui, en tout cas, nous, dans notre pays, la France, ou même le Canada, enfin, tous ceux qui m'écoutent en langue française, on va dire, on ne vit pas ces problématiques directement, les problématiques de famine et tout. Cette industrie a... aujourd'hui, dans les pays développés, utiliser ce genre de choses-là qu'on n'a pas envie d'avoir dans notre assiette, mais dans des pays où la nourriture vient à manquer, ben, peut-être que c'est parfois, je ne vais pas dire nécessaire, mais en tout cas utile de proposer ça plutôt que rien, en fait. Mais bon, après, c'est des grands débats. Il y en a qui diraient que non, mais on peut aussi à ces gens-là leur donner de la bonne nourriture. Oui, oui, je suis d'accord, mais en fait, quand il y a des gens qui crèvent la dalle, on essaye de les nourrir avec ce qu'on peut, qui va tenir le temps, quand il n'y a pas de frigo, quand il n'y a pas de tout ça. Je pense qu'à un moment donné, il y a la survie versus santé, et à un moment donné, la survie passe peut-être avant la santé long terme. Et je pense que c'est là où on s'est perdu, en fait, entre ces deux objectifs-là. Nourrir les gens. Donc nourrir les gens, c'est une chose, au quotidien avec des saloperies, non. Et sauver des gens en leur donnant à manger dans l'immédiat parce qu'ils n'ont rien à bouffer. Et en fait, aujourd'hui, on est un petit peu, c'est un mix au checker de ces deux choses-là et qui est complètement... Enfin, je veux dire, nous, on n'a pas de raison aujourd'hui de manger ces saloperies dans le mode de vie qu'on a tous aujourd'hui. On n'a pas un couteau sous la gorge pour les manger. Pourtant, on les mange. Enfin, quand je dis « on », c'est les Français, parce que moi, je ne les bouffe pas. Bref. Végétalien versus diète végétalienne versus diète méditerranéenne. Donc vous savez que moi j'ai quand même beaucoup de... Alors vous voyez, conflit d'intérêts. J'ai beaucoup d'attirance et de... Enfin voilà, moi la diète méditerranéenne c'est vraiment quelque chose que j'apprécie pour... Enfin c'est pas que j'apprécie en termes de diète particulièrement, je sais pas, elle me fait pas vibrer ni rien, mais quand je dis j'apprécie, c'est qu'elle me semble très cohérente. Voilà. Bref. Dans cette étude, donc là, pareil, vous avez la source dans les notes de l'émission pour ceux qui veulent aller lire ça. Dans cette étude, les 52 participants en surpoids ont suivi pendant 16 semaines soit un régime végétalien faible en matière grasse, soit un régime méditerranéen. L'intervention n'imposait pas de restrictions caloriques. Les participants sont revenus ensuite à leur alimentation initiale pendant 4 semaines, qui ont adopté pendant 16 semaines le deuxième régime végétalien ou méditerranéen. Les résultats indiquent que le régime végétalien a permis de perdre plus de poids que le régime méditerranéen. En effet, les participants ont perdu en moyenne 6 kilos lorsqu'ils suivaient le régime végétalien, alors qu'en moyenne, aucune perte de poids n'a été observée avec le régime méditerranéen après 36 semaines d'intervention. L'essentiel de la perte de poids obtenue avec le régime végétalien est imputable à une réduction de la masse grasse, 3,4 kg en moyenne, et à une diminution du volume de graisse viscérale au niveau de l'abdomen. Le régime végétalien a permis d'obtenir une réduction du cholestérol total et du entre guillemets, « mauvais cholestérol » LDL, ainsi qu'une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Les deux régimes ont fait baisser la pression artérielle, mais cette fois, c'est avec le régime méditerranéen que la réduction a été la plus importante. Selon les chercheurs, le régime végétalien réduit le poids corporel par deux mécanismes. D'abord, la réduction des graisses alimentaires et l'augmentation des fibres conduisent à une réduction de la densité énergétique alimentaire et donc à une diminution de l'apport énergétique. De plus, le régime végétalien augmente la dépense énergétique postprandiale liée à la transformation et au stockage des aliments. Bon, déjà, évidemment, végétalien plus zéro graisse, enfin très faible en matière grasse, il reste quasiment que des fibres, quoi, hein, des fibres à manger. Ça m'étonne pas du tout que la perte de poids ait été la plus importante. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que, évidemment, ça, je déconseille fortement si vous êtes sportif. Hein. Là, ne tombez pas dans le raccourci trop brutal de vouloir suivre ces indications-là si vous faites de la muscu. Je pense que ça va rapidement se solder par un métabolisme explosé, hein, enfin explosé dans le mauvais sens du terme. Et d'ailleurs, je vous renvoie après, si vous avez suivi une diète végétalienne, végétarienne ou autre un peu trop sévère et que vous vous sentez plus fatigué, moins fort, moins viril, moins tout ce que vous voulez depuis que vous suivez ce genre de diète, allez juste voir le lien « Comment relancer son métabolisme » dans les notes de l'émission, là, et vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Ce qui ne veut pas dire que c'est... Enfin bon, vous comprendrez pourquoi. Et je ne tire pas au fusil sur ce genre de diète. Hein. Attention, je n'ai pas de parti pris ou autre. Moi, je suis ma diète, mais chacun est libre de faire celle qu'il veut. C'est juste que en ayant certaines connaissances, on est capable de comprendre certaines problématiques de certains régimes. Donc voilà, moi, je trouve ça intéressant de lire ça. La diète méditerranéenne, à l'inverse, est quand même très riche en graisses. Donc les graisses, ça a beau être à calories, enfin, ce sont les, ils disent le même nombre de calories, mais bon, à calories égaux, entre guillemets, si un, c'est des fibres qui vont méchamment faire travailler l'organisme, et l'autre, des graisses qui vont être facilement stockées, c'est là où on voit en fait que les calories... Vous voyez bien là que les calories, c'est, enfin, je veux dire, il n'y a pas de restriction. L'intervention n'imposait pas de restriction calorique. Donc, ça veut dire qu'ils mangeaient quoi à leur faim. C'était chacun mangeait à sa faim. Mais bon, manger à sa faim des graisses et manger à sa faim des fibres, c'est pas la même chose. Hein. Enfin, il va pas se passer la même chose. Donc, enfin, là, si je peux vous donner 2-3 petits conseils, si vous avez besoin de combler votre faim, les fibres, c'est très bien. Ne mangez pas des graisses pour combler votre faim, ni des sucres, ni des glucides, quoi. Les fibres, c'est bien, enfin, voilà. Donc, ça nous donne des indications dans ce sens-là. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, manger à sa faim que des fibres, évidemment, là, ceux qui cherchent les méthodes pour maigrir absolument, ben oui, vous allez maigrir, mais bon, vous allez tout perdre, hein, muscle également, parce que des fibres, ça ne maintient pas la masse musculaire. Voilà. Donc, à mettre dans le contexte de la vie d'un sportif, attention. La question de l'auditeur que je vais traiter rapidement, avant de vous quitter, donc bonjour Théo et merci pour tes podcasts. Donc merci à toi pour ta question. Ma question concerne la récupération après une séance. À chaque fois que je fais une séance, exercice maison, type poids du corps lesté, terminé par un footing de 10 à 15 minutes, le tout dure environ 1h à 1h30, je mets toujours un peu trop de temps à mon goût pour récupérer. C'est-à-dire que le lendemain, je suis un légume. Le surlendemain, ça va un peu mieux, mais toujours une certaine lourdeur musculaire. Et le jour d'après, je me sens à nouveau prêt. Comment améliorer tout ça? Y a-t-il certains nutriments, macro et ou micro, à favoriser, certains compléments? Je pense pourtant avoir un style de vie correct. Les seules choses industrielles que je consomme sont des flocons d'avoine ou de petites épaules pour compléter mes glucides. Et je ne manque pas de sommeil. Suis-je un fragile? Merci. Suis-je un fragile? On est tous des fragiles. Enfin, je veux dire, l'homme, l'être humain n'est pas une... Enfin, contrairement à ce que tout le monde essaye de nous faire croire, on n'est pas vraiment des foudres de guerre en termes de... On n'est pas des gros prédateurs physiques. On est des gros prédateurs par notre, entre guillemets... matière grise, donc notre tout ce qui est le cortex, etc. C'est enfin tous nos liens sociaux et tout, ça fait qu'on est des bons prédateurs, mais on est plutôt fragile à titre individuel. Enfin n'importe qui, nous versus un animal du même gabarit que nous, du même poids que nous, on fait pas long feu. Donc on est tous plus ou moins des fragiles. Hein. Ça déjà, y a pas de problème là-dessus. Après, oui, je comprends ce que tu veux dire. Suis-je un fragile parce que t'arrives pas à récupérer? Plusieurs choses. Est-ce que les exercices? Déjà, tu fais des poids de corps lesté, exercice maison type poids de corps lesté. Donc j'imagine que c'est quoi, des dips lestés, des pompes lestées, des tractions lestées. Bah il est possible que tu te crames nerveusement aussi avec ça. Hein. Je sais pas, si tu te lestes avec 60 kilos sur les dips et avec 20 ou 30 kilos sur tes tractions, bah c'est quand même des entraînements relativement lourds. Hein. Donc il y a pas, enfin je veux dire, t'es pas à l'abri d'un système nerveux qui se crame avec ça, surtout si tu fais que ça depuis des années. Ça, je connais pas ton niveau de force. Après, si c'est lesté avec 5 kilos et ton poids de corps, bon, je veux dire, c'est quand même compliqué. Je sais pas le nombre de séries que tu fais, mais si tu me dis que tu fais 10 à 15 minutes de footing et que tu t'entraînes 1h à 1h30, donc potentiellement tu fais 1h15 de muscu, ce qui est quand même 1h15, c'est assez. Si t'es hyper intense, c'est trop. Enfin, trop, je connais pas ton niveau, mais en règle générale, en 45 minutes, on a plié sa séance de muscu si on est vraiment intense. Donc, c'est peut-être que t'as une demi-heure de trop de muscu. Mais si tu arrives à les faire, c'est bien que tu as l'énergie. Donc du coup, est-ce que l'avant est réellement hyper intense? Tu vois, c'est ce genre de questions qu'il faut te poser. Après, au niveau de la diète, des nutriments macro, micro à favoriser? Non, en fait, c'est plutôt des doses. Est-ce que tu n'es pas trop, trop en restriction depuis trop longtemps? Je ne sais pas dans quelle configuration tu es. Pour avoir tes glucides, des flocons d'avoine, du petit épaule, j'en sais rien. Est-ce que tu n'es pas en mauvaise récupération. Pour te donner un exemple, moi, ce que tu dis là, je le ressens uniquement après des séances de jambes hyper hardcore quand je boucle mal ma diète. C'est-à-dire que si je fais les jambes vraiment intenses, en général, je les fais le lundi. Donc le lundi étant une sortie pour moi de week-end où je me fais un petit peu plaisir sur la bouffe avec un ou deux repas, on va dire, de bonne recharge calorique. Souvent, le lundi, j'ai la gouache pour faire les cuisses, donc pas de problème, quoi. C'est pour ça que je le mets le lundi. Je profite du maximum d'énergie pour faire la séance qui me demande finalement le plus d'énergie sur la semaine. Mais après, il ne faut pas non plus avoir une diète, tu vois, le lundi soir, toute ridicule, parce que là, c'est là où, en fait, où on récupère mal. Donc, je ne sais pas, après, moi, je ne peux pas te donner d'autres indications de est-ce que tu prends bien une bonne collation protéinée après l'effort. Je ne suis pas forcément pour les glucides après l'effort, mais surtout une bonne dose de protéines pour récupérer au niveau musculaire. Est-ce que tu as après un repas bien solide après ton entraînement? Donc, le repas du soir, est-ce qu'il est suffisant? Est-ce que tu manges suffisamment de viande, poisson, œuf? Est-ce que ton système nerveux récupère bien? Est-ce que t'as tu prends du zinc, du magnésium? Est-ce que ton sommeil, tu ne manques pas de sommeil, mais ça veut rien dire. On peut dormir 8 heures, avoir la tête dans le cul. Est-ce que ton sommeil est ponctué de réveil? Est-ce que ton sommeil, tu le calcules avec un truc qui te calcule les phases? Et est-ce que tu vois que t'as du profond, du machin et bidule? Enfin, tout ça. C'est très compliqué de te donner des réponses, mais optimise ton sommeil, parce que tu vois, je ne manque pas de sommeil, mais si tu dors de minuit à 9h, c'est pas pareil que de dormir de 22h à 6h ou 7h. Est-ce que tu as des heures avant 23h par exemple? Est-ce que tu dors? Est-ce qu'à 23h tu es endormi, oui ou non? Moi j'aime bien te dire quelque chose qui ne révèle pas directement comme ça d'études scientifiques, mais pourtant qui a été prouvé par pas mal de chercheurs, c'est que les heures avant minuit sont plus récupératrices. Donc et si vous voulez les sources, allez en zone VIP, j'ai plein de formations sur le sommeil, vous aurez toutes les sources hein, des trucs que je suis en train de raconter là. Donc voilà, mais ouais, non, c'est surtout une exploration globale. Cette lourdeur que tu as, moi je l'ai aussi, mais vu que j'ai pas suffisamment d'infos sur toi, moi je l'ai quand je foire un peu ma diète après ce genre de séance. Exemple, comme je te dis, le repas après l'entraînement n'est pas assez riche en protéines, donc ma collation n'est pas assez riche en protéines. Mon repas du soir, ça va être trop du poisson blanc avec un peu de légumes et tout, donc là je sens que je suis pas dans une bonne récupération. Après des entraînements hardcore, je préfère utiliser maintenant des viandes peut-être un petit peu plus lourdes, un petit peu plus grasses, ou des poissons type saumon et tout ça, et de pas hésiter à me charger un petit peu même le soir avec pourquoi pas un petit peu de légumineuses en plus quand je suis en période de sèche. Ça me posera pas trop de problèmes. Après, si c'est à toutes les séances, là il faut se poser des questions. C'est que globalement tu tapes trop d'énergie par rapport à ce que tu consommes. Donc, à toi de densifier un petit peu ta nutrition globalement sur toute la semaine et pas que ponctuellement après tes séances. Voilà, pour moi, les premières pistes que tu devrais travailler, en plus de celle du sommeil, avant d'essayer de trouver... Dans les compléments alimentaires, tu sais... je crois pas en une solution pour toi, en un petit complément alimentaire qui va te sauver la vie. Je pense plutôt que c'est un ensemble, je pense plutôt que c'est une grosse habitude de vie que tu as et que tu penses être bonne et qui n'est pas bonne, en fait. Et c'est souvent comme ça, en fait, quand les personnes ont des gros soucis comme ça de fatigue et tout, on travaille pas sur des détails, hein. Moi, les personnes que j'ai en consultation et tout à chaque fois, c'est la même chose, hein. C'est très rarement un détail, en fait, c'est une grosse croyance que la personne pense être vraiment le truc qu'elle fait très bien depuis des années. En fait, non, elle avait une mauvaise croyance. Ça ne veut pas dire qu'elle a une mauvaise connaissance. C'est une très bonne connaissance en général qu'elle a, mais qui n'est pas adaptée à son style de vie et tout ça. Et toi, je pense, il me semble, que ça n'est pas un détail. D'être un légume le lendemain des séances de sport, et le surlendemain, ça va juste un peu mieux. Non, c'est pas un détail. C'est que globalement, t'as un niveau d'énergie qui est trop bas. Donc, il faut travailler sur ce qui donne de l'énergie. Donc, ça, j'en parle pareil sur le site à plein d'endroits. Mais de travailler là-dessus parce que tu as massivement quelque chose qui te bouffe ton énergie. Alors, également, est-ce que tu n'es pas dans un contexte d'une situation professionnelle, de vie ou autre, qui te bouffe toute ta volonté et ton énergie ? Et ça, est-ce que, voilà, il faut que tu arrives à l'identifier. Donc, si tu arrives à identifier que tu es là-dedans aussi, la solution est quasiment la même, c'est-à-dire qu'il faut apporter plus d'énergie. Donc, voilà comment je répondrai à la question que tu me poses largement, puisque je ne te connais pas, je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais rien de tout ça, je te donne juste des indications. Voilà, vous pouvez vous poser vos questions, pareil, dans le formulaire que vous retrouverez dans les notes. Et si vous voulez avoir toutes les références et tout ça, allez sur mon site pour lire toutes les notes du podcast, là, avec la question, avec les sources pour la diète végétalienne, méditerranéenne et tout ça. Et pour tous ceux qui veulent relancer leur métabolisme, allez faire un tour sur la plateforme VIP, là, vous avez le lien, comment relancer son métabolisme, on parle de la leptine, c'est dans la description. Merci à tous et très bonne semaine sportive. Bye bye.